Bonjour et bienvenue. On a sur la table aujourd'hui une série d'articles du magazine iDébat, celui du 12 février 2026. Notre mission, si on l'accepte, c'est de décortiquer un peu les grands enjeux stratégiques qui se dessinent pour le Maroc et ses voisins.
Absolument.
On va parler de diplomatie très silencieuse, de choix économiques assez audacieux en Europe, de grands changements politiques à Rabat, mais aussi de questions plus profondes, on va dire, sur ce qui fait l'identité et l'influence d'une nation aujourd'hui. Alors, commençons.
Oui. Et ce qui est fascinant avec ces articles, c'est qu'ils nous donnent une photographie à plusieurs niveaux. On passe des coulisses feutrées de la haute diplomatie aux débats de société sur le sport, la culture.
C'est ça.
En passant par les rouages de l'économie, de la politique. C'est un véritable échiquier où chaque pièce a son importance.
Alors, commençons par ce qui ressemble un peu à un thriller diplomatique. Le premier article s'intitule « Madrid ou l'art du silence organisé ». Il se passe quelque chose de très important en Espagne sur le dossier du Sahara marocain, mais tout est sous cloche, verrouillé. Que sait-on concrètement ?
Ben, ce qu'on sait officiellement, ça tient sur un timbre-poste. Les États-Unis ont confirmé avoir, je cite, « facilité des consultations multilatérales sous l'égide de l'ONU ».
D'accord.
Il y avait le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Front Polisario. Mais c'est le format qui est notable. Un huis clos total à l'ambassade américaine. Pas de communiqué, pas de photos. Le silence, en fait, est une stratégie.
C'est pour éviter la surenchère médiatique, j'imagine. On a vu par le passé comment ça pouvait tout faire capoter.
Exactement. L'idée, c'est d'isoler les négociateurs de la pression de leurs opinions publiques. Surtout après la résolution 2797 de l'ONU qui pousse vraiment vers une solution réaliste et pragmatique. Le silence est là pour donner une chance à ce pragmatisme.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pendant que les canaux officiels sont muets, la presse informelle, elle, s'agite beaucoup. On entend parler de rumeurs assez incroyables.
C'est tout le paradoxe. Cette presse qui cite toujours des sources proches du dossier, bien sûr.
Évidemment.
Elle évoque des avancées majeures, mais toujours au conditionnel. Il se dit que l'Algérie aura accepté que l'initiative d'autonomie marocaine soit le seul document de travail. On parle de la création d'un comité technique, même d'un calendrier.
Ce qui serait énorme. Mais il faut le souligner, hein, ce sont des informations au conditionnel.
Tout à fait. Ça dessine une tendance, une direction, mais ça ne constitue pas un accord. C'est ce que l'article appelle la fameuse « bataille du récit » qui se joue dans cet entre-deux.
Restons en Espagne, parce que ce n'est pas seulement un lieu de diplomatie secrète, c'est aussi le théâtre d'une politique économique qui va, mais alors totalement à contre-courant du reste de l'Europe. L'article « Immigration bas », l'Espagne gagne, l'Europe se tire une balle dans le pied, est assez direct.
C'est un contraste saisissant, oui. D'un côté, on a des pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie qui durcissent leur politique migratoire.
Alors même qu'ils font face à des pénuries de main-d'œuvre.
Exactement. Et à un déclin démographique. Et de l'autre, on a l'Espagne de Pedro Sanchez qui fait le pari inverse. Et les chiffres semblent lui donner raison. En 2025, une croissance de 2,8%, c'est le double de la zone euro.
Et la clé, selon l'article, c'est l'intégration des migrants par le travail.
C'est ça. C'est présenté comme le cœur du modèle. Il représente déjà 13% de la main-d'œuvre et Madrid va encore plus loin.
Ah oui, hein ?
Oui, le gouvernement a annoncé fin janvier 2026 la régularisation de 500 000 sans-papiers.
500 000 ?
L'analyse, c'est que l'Espagne considère l'immigration légale comme une nécessité démographique et un atout économique. Pendant ce temps, les autres pays européens sont décrits comme confrontés à une croissance anémique et des pénuries dans des secteurs vitaux. La santé, le BTP...
Et l'Espagne présente son modèle comme une solution pragmatique, quoi, pour une Europe vieillissante.
C'est exactement ça.
Alors, revenons au Maroc, où la scène politique intérieure est aussi en plein bouleversement. Un nom est sur toutes les lèvres, Aziz Akanouche. Il a annoncé ne pas briguer un nouveau mandat à la tête de son parti, le RNI.
Oui, c'est un tournant majeur. Aziz Akanouche a profondément transformé le RNI. Il l'a fait passer d'un, je cite, « parti de notables » à une véritable formation managériale.
Centralisée, avec de gros moyens ?
Très centralisée et avec d'importants moyens financiers, oui. Son bilan à la tête du gouvernement est qualifié de consistant sur le papier. Beaucoup de réformes ont été adoptées sur la santé, l'éducation, l'investissement.
Oui, mais les articles soulignent aussi de grosses zones d'ombre.
En effet, son héritage est aussi marqué par ce que les auteurs appellent une piètre communication et de trop puissants relents de conflits d'intérêts.
On le compare à Berlusconi, à Trump.
Oui, à d'autres milliardaires en politique qui ont un peu écrasé la classe politique par leur poids. Son successeur désigné Mohamed Chouki hérite d'une machine puissante, mais la grande question c'est...
Est-ce que la machine peut fonctionner sans l'argent et l'influence de son ancien chef? Surtout à quelques mois des élections de septembre 2026.
C'est toute la question, oui. Est-ce que le parti peut fonctionner sans son créateur? L'avenir nous le dira.
Cette idée de gouvernance, de peser le pour et le contre, on la retrouve dans une autre décision importante, la suspension du projet de terminal gazier à Nador. Alors là, à première vue, ça sonne comme un échec.
Et pourtant, l'analyse qu'on lit est tout autre. Elle présente cette suspension non pas comme un échec, mais au contraire comme l'épreuve de vérité du modèle énergétique marocain.
Ah oui.
Et même comme une démonstration de gouvernance maîtrisée. Il y a eu une tension, en fait, entre le ministère de l'Énergie, qui a une ambition stratégique.
La sécurité d'approvisionnement, etc.
Voilà. Et le ministère des Finances, qui joue son rôle de gardien de la prudence budgétaire.
En clair, les finances ont dit « Attendez, c'est bien beau, mais qui paye si la demande n'est pas au rendez-vous ?»
C'est exactement ça. Le projet était dimensionné pour 5 milliards de mètres cubes par an, face à une demande actuelle de 1,2 milliard. Le risque commercial était majeur.
Le décalage est énorme.
À l'État de garantir des revenus via des clauses take or pay, sans avoir d'acheteur ferme en face, ben, ça revenait à transférer tout le risque sur le budget public. Donc la suspension est vue comme une mesure d'hygiène. Une pause pour redimensionner le projet et attendre de meilleures conditions sur le marché du GNL prévu pour 2026-2027.
C'est un signe de rigueur, donc. Pas de faiblesse?
C'est l'analyse qui est proposée.
Après ces sujets très concrets, les sources nous emmènent sur un terrain plus philosophique avec une question fascinante. Quand le drapeau ne se lève qu'au stade? L'article constate que la fierté nationale semble s'exprimer massivement pour le football, mais très peu pour d'autres réussites.
C'est une observation très très forte. L'auteur oppose l'euphorie collective pour une victoire sportive à l'anonymat quasi total de figures marocaines de premier plan mondial.
Il cite des noms.
Oui, il cite le scientifique Rachid Yazami, un des pionniers des batteries rechargeables, ou encore Kamal Oudghiri de la NASA. Leurs victoires sont silencieuses. L'article pose la question de savoir si le football, en comblant ce besoin d'appartenance collective,
n'est pas devenu l'opium moderne des peuples, pour reprendre la formule.
C'est ça. Un opium qui éclipserait d'autres formes de fierté nationale.
Et ce thème du football nous mène directement au bilan de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, organisée par le Maroc. Un succès sur le plan de l'organisation, mais apparemment pas sur celui de l'image.
C'est le grand paradoxe du soft power. Le Maroc a voulu que cette CAN soit la meilleure de l'histoire. Et techniquement, les infrastructures étaient irréprochables. Mais l'image qui en est ressortie auprès d'une partie de l'opinion africaine, c'est celle du bon élève.
Voire du donneur de leçons, un peu arrogant.
C'est ça, perçu comme arrogant. La bataille de la perception sur les réseaux sociaux a été en partie perdue.
Alors que préconisent les auteurs pour corriger le tir?
Ils appellent à une refonte totale de la communication pour restaurer ce soft power. L'idée, c'est de passer de l'image du bon élève à celle du grand frère solidaire.
Et comment on fait ça concrètement?
Par plusieurs actions. Changer le narratif, lancer des campagnes sur les réseaux sociaux qui montrent l'accueil chaleureux, l'humain.
Moins le béton, plus les visages.
Précisément. Produire un documentaire sur les coulisses et même publier un livre blanc pour partager le savoir-faire organisationnel avec les autres fédérations africaines.
Ah, ça c'est une bonne idée.
L'objectif est de montrer que le succès marocain est un atout pour tout le continent, pas un instrument de domination. Il s'agit de passer d'un simple soft power, qui est un peu le pouvoir d'attirer, à un smart power beaucoup plus stratégique.
Alors que retenir de tout ça? Si on essaye de prendre un peu de hauteur, on voit un pays, une région en pleine effervescence, qui navigue entre des négociations secrètes, des choix économiques audacieux, des transitions politiques et une profonde réflexion sur leur image.
Ce qui relie tous ces points, il me semble, c'est une tension. Une tension permanente entre l'action et le récit, entre le fait de prendre des décisions importantes et la capacité à en raconter l'histoire.
Oui, c'est très juste.
On le voit avec le silence de Madrid, qui laisse le champ libre à la guerre des récits. On le voit avec les échecs de communication d'un gouvernement. Et on le voit de manière éclatante avec cette CAN, où une réussite technique impeccable a produit un récit d'image décevant.
C'est un fil rouge très clair. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, une question un peu vertigineuse.
Dans un monde saturé d'informations, de perceptions, le plus grand défi pour une nation, est-ce que c'est encore de faire les bons choix ou est-ce que c'est devenu de réussir à maîtriser le récit de ses choix, tant pour ses propres citoyens que pour le reste du monde ?